ça vient, tout ça, ça vient... je suis archi d'intérieur de formation. Ce qui explique aussi que je suis arrivée un peu sur le tard sur tout ce travail plastique et musical, mais j'ai bossé 12 ans en archi, jusqu'à ce que voilà, la dernière boîte dans laquelle j'ai travaillé a fermé, en fin 2008. Et parallèlement à ça, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé... voilà, musique et peinture, ça a toujours fait partie de ma vie. Peut-être plus la musique jusqu'en 2008, mais j'avais envie, parce que enfin, toi, tu peux pas tout faire, musique, sortir des morceaux, travailler. Donc la peinture, je l'avais laissée de côté, mais bien que je l'avais toujours en tête. Et donc fin 2008, ma boîte d'archives ferme. Et c'est là en fait que le déclic s'est fait. C'était plutôt pour moi une bonne chose. Parce que j'allais enfin pouvoir avoir la possibilité de réfléchir à ce dont j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Voilà. Ça m'a permis de me poser, ça m'a permis de commencer à mettre des choses en place, donc commencer à produire en peinture, continuer à produire en musique. Et voilà, puis monter des petits projets, commencer à faire des tremplins en musique, ça se passait plutôt bien. C'était des premières expos qui se mettent en place aussi, qui se passaient enfin, voilà, avec un bon accueil, des concerts avec un bon accueil. Je me suis dit, bon, ça a l'air bien parti. Voilà, c'est un choix de vie que j'ai fait, même si ça marchait pas trop au début. Financièrement, il n'y avait pas de retour financier immédiat, mais dans tous les cas, les retours étaient encourageants, motivants, et ça me nourrissait suffisamment pour la suite. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé, mais c'est toujours que... Je sais pas comment expliquer, mais c'est un truc que tu as toujours en toi, tu as envie de sortir, et puis le sortir, et puis tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas le temps. Et quand tu as le temps, tu...
Par rapport à ce choix de matériaux, ça c'est récent ou ça date quand même
Les premiers travaux plastiques, c'est plus une connaissance avec des techniques, des matériaux que j'avais pas forcément déjà expérimenté. Donc c'était beaucoup de collage, du pochoir, un peu de texte, beaucoup de matériaux de récupération. Et puis
comment t'en arrives au métal justement? Ça c'est.
Je te parle d'abord de cette première partie.
D'accord.
Plastique.
Okay.
Parce que après ça va.
C'est un cheminement logique.
Ouais, ça va cheminer directement. Et en fait, ce commencement, en fait, je travaillais déjà beaucoup, inconsciemment, sur ces notions de mémoire, de patrimoine, via ces premiers travaux plastiques. Et donc ça, il y a eu quand même quelques expositions sur cette base-là. Et j'avais en fait, cette histoire d'empreinte, elle s'est déclenchée en 2013, voilà. Donc de 2009 à 2013, il y a eu tout un cheminement. Je savais que pour moi, travailler sur le patrimoine, travailler sur l'histoire, travailler sur la mémoire, sur les gens, sur ce qui reste de leur passage, pour moi c'était important. Et parallèlement à ça, j'avais... cette envie de travailler sur du métal, parce que je l'avais déjà expérimenté ça il y a une quinzaine d'années chez moi, dans mon ancienne, dans l'habitation de mes grands-parents, il y avait une cour dans laquelle j'ai toujours joué quand j'étais gamine, et un jour je savais qu'il allait y avoir des travaux, donc ce lieu-là allait disparaître, puis il y avait une tôle qui traînait, c'est vraiment très... spontané, mais il y a une tôle qui était là et je me dis plutôt que de prendre une photo de ça, la photo, voilà, je vais la ranger, je vais l'oublier, je vais perdre le négatif. Je me suis dit je vais créer quelque chose de physique, et cette tôle, j'avais envie de faire une empreinte. Voilà, donc il y avait une tôle, j'avais forcément un marteau pas loin, enfin ça dépend, mais moi c'était le cas. Et du coup je me dis je vais prendre une empreinte d'un bout de cette cour, donc je sais qu'elle va être amenée à disparaître.
Prendre une photo avec de la tôle.
Voilà. Et c'était... Donc c'est parti de là. Donc ça c'est très ancien. Ça doit dater de, je sais pas, de... Enfin, fin des années 90, 2000. Enfin, très ancien, donc une quinzaine d'années, une bonne quinzaine d'années, je pense. Et puis ça, je l'ai toujours eu en tête, voilà, sans forcément avoir le temps d'exploiter. Et du coup, après, ça, c'est venu dans la continuité de mon travail plastique, où je me suis dit, voilà, ce rapport au patrimoine et à la mémoire, il est très fort. Qu'est-ce que je peux en faire sur la base de cette technique-là ? Donc, naturellement, le lien entre ce travail de martelage et ce précédent travail de mémoire, mais il s'est inscrit très naturellement dans des lieux liés à la mémoire. Donc moi, étant de la région, ce sont essentiellement des lieux industriels liés à l'histoire de la mine.
Saint-Minier. Voilà,
etc., etc.
Ta démarche, est-ce que tu la rapproches du Land Art ? Est-ce que ça, on peut la ranger un petit peu là-dedans ou...
Non, pas vraiment, parce que c'est plus une démarche vraiment plastique. Quand tu es sur les lieux, quand je suis sur les lieux, effectivement, j'ai un rapport très, c'est une seconde peau que j'amène, que j'essaye d'emprunter sur la peau originelle.
Voilà, parce que tu t'engages.
Mais il y a un moment, où je décide, tu vois, de redresser la tôle et d'en faire une espèce d'objet de salon. Donc à partir de là, on peut effectivement pas vraiment parler de Land Art.
Oui, parce qu'il y a un contraste en fait entre cette rudesse, la froideur donc des matériaux que tu utilises et puis l'engagement physique que tu mets. J'ai vu tes vidéos justement. Est-ce que ça t'arrive d'ailleurs de performer en direct ? Tu performes avec ça ou pas du tout ?
Alors la performance, c'est un grand mot en fait. C'est juste.
C'est
juste mon travail.
Il n'y a pas de public là.
Non. Alors ça m'est déjà arrivé sur des petites manifestations, effectivement, mais c'est plus... voilà, on ne peut pas appeler ça une performance, c'était juste une espèce de sensibilisation,
oui.
Montrer comment ça peut se passer.
De produire en direct.
Avec des enfants, des adultes, des parents, des grands-parents, pouvoir expliquer, pouvoir...
Parce que tu animes des ateliers aussi.
Ça peut m'arriver. Alors, j'ai jamais utilisé cette technique-là sur des ateliers, mais...
C'est un
mot que j'aime pas trop, en fait.
Ah,
parce que c'est... En fait, c'est juste c'est presque un travail artisanal, voilà.
Oui, mais ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre.
Je suis plus dans l'idée d'utiliser le mot médiation que le mot performance. Voilà, c'est un moment, voilà, t'es là pour expliquer aux gens ce que tu fais, comment tu fais, ils sont curieux, ils s'intéressent du coup au lieu, à leur histoire, au support, ça permet d'échanger.
D'être dans le faire, voilà. Et que ce soit concret et direct.
Il y a forcément un lien à ce moment-là avec ceux qui t'entourent et ceux qui sont là. Après, dans le mot performance, tu vois, je vois aussi, il y a aussi pour moi une notion d'isolement par rapport au reste du monde. C'est mon geste artistique
inévitablement,
qui est isolé et regardé, mais sans interaction.
Est-ce que cet aspect industriel, ça se retrouve... quel est le lien avec le projet musical, justement, par rapport à cet aspect industriel de ton univers plastique ?
Alors, c'est deux projets bien distincts. C'est-à-dire le projet électro-rock, sauf qu'il est fait par la même personne, quoi, donc forcément, il y a un lien, mais ça m'arrive assez souvent. Alors, pas ici, parce que c'est une exposition collective, mais sur des expositions individuelles, de proposer des habillages sonores, puisque très souvent, quand je vais sur ces lieux, il faut imaginer aussi les... Tu vois ici, la résonance qu'il peut y avoir dans ce lieu. À chaque lieu, a une résonance particulière, une ambiance particulière, feutrée, ou cathédralesque, ou je ne sais pas comment ça se dit, pas ça. Mais... Donc je prends assez souvent des sons dans ces lieux-là, qui peuvent être des sons très différents, pas forcément que des sons de marteau, parce que c'est... Mais tu vois, le son de tes pas, si tu traverses du gravier, si tu es en train d'escalader un terri, si tu frôles des arbustes, tu vois, ce genre de son que je mets bout à bout. Et donc ça, fréquemment sur les expos, je propose ce genre d'habillage sonore en complément des empreintes. Mais c'est vrai que le projet, c'est pour ça que... À côté, le projet musical, non, il n'est pas, peut-être pas encore, mais pas en lien direct avec le travail d'empreinte. Bien que j'aime bien aussi récupérer, tu vois, des petits sons, c'est pas forcément que des sons électroniques, il y a parfois des sons samplés, mais c'est pas la majorité des sons qui composent ce projet.
Et est-ce que tu as toujours travaillé en solo ou est-ce qu'on te connaît des expériences en groupe ?
J'ai eu des projets de groupe qui ont... comme plein de groupes, c'est pas toujours facile d'assurer une cohésion pérenne. Et voilà, il y en a un qui part, il faut retrouver un batteur ou un bassiste. Ou voilà, il y en a qui... T'as un enfant, du coup, tu fais moins les répètes. Donc, deux projets de groupe. Il y a un groupe électro trip-hop qui s'appelait Lucy Labs. Un autre qui s'appelait WNE, qui est plus un projet punk rock.
Voilà. T'étais donc, en ligne de guitare chant
Non, pas du tout. Pas du tout. Là, plus musicienne, alors, soit claviériste, soit bassiste, dans l'un et dans l'autre, respectivement. Mais voilà, donc des expériences de groupe, ouais, il y en a eu. C'est là que tu te rends compte que c'est extrêmement complexe. Et parallèlement à ça, moi j'avais besoin aussi de me créer une petite soupape. Donc Baika, il est né, c'est un projet qui est né en même temps que Lucy Labs en même temps que WNE. Voilà. Donc ça c'est un projet que je menais de front avec. Voilà. Et puis comme c'est difficile de splitter quand t'es toute seule, Baika est resté et puis les projets de groupe sont partis.
Oui, c'est resté en pointillé et puis jusqu'au jour où tu as vraiment décidé de privilégier ça et de le développer à fond.
Donc privilégier ça, donc c'était les premiers morceaux de Baika, c'est 2004. J'avais déjà repris la musique avant, mais 2004 et les premiers concerts c'était 2009. Enfin, tout est arrivé en 2009 en fait, quand j'ai perdu mon boulot et que j'ai décidé de ne faire plus que ça, de la peinture et de la musique.
Et comment t'as abordé la scène toute seule ?
Parce qu'on m'a mis un coup de pied aux fesses. On m'a dit, je fête mon anniversaire, il faut absolument que tu viennes, ne t'inquiète pas, il y aura 15 groupes, tu ne seras pas toute seule. Et non, c'est une amie qui a décidé de fêter son anniversaire, alors dans de super conditions, hein, à la condition publique, et avec une majorité de groupes qui gravitaient dans le cadre des musiques libres. Voilà. Donc c'était le premier concert, donc très stressant. Et puis en même temps, vachement chouette parce que quand on a fait un, je sais pas si tu fais de la musique, mais quand on a fait un, après, t'as envie d'en faire plein d'autres. Paradoxalement, avant ça, sur un projet solo, j'aurais jamais imaginé pouvoir soutenir une scène.
Ça s'est fait rapidement d'ailleurs, entre le moment où tu as décidé de t'investir à fond dans ton projet solo et le moment où tu as mis un pied sur scène toute seule. Il s'est passé combien de temps ? Ça s'est fait rapidement.
Alors, m'investir... Non, enfin, en 2004, je faisais des morceaux qui n'étaient absolument pas destinés à être joués sur scène, mais je les faisais parce que j'avais besoin de les faire. Et c'est... Quand cet ami en question m'a dit « il faut que tu viennes jouer, il faut arrêter de faire des morceaux dans ton coin », et c'est là que je me suis dit « comment je les transpose pour que ce soit jouable, écoutable, regardable ?» C'est là que je me suis dit... qu'il fallait que je commence à composer différemment si je voulais faire d'autres concerts.
Parce que c'est tout de suite partie des guitares, séquences, ça a toujours été cette formule.
Très rapidement, ça a été ça finalement, vu que j'étais toute seule et que pour ce premier concert, tu peux pas t'organiser, trouver des gens à la batterie, à la basse. Donc c'était une solution que j'avais trouvée, assez facilitante.
Mais t'envisages de t'entourer de gens ?
Bah là, j'avoue qu'en ce moment,
c'est un
principe que j'assume. Le fait de jouer seul, j'essaye de pas me faire manger par l'instrumentation, toute la programmation, toute la partie programmation. Parce que dans l'électro, c'est ça, tu as accès à tellement de sons que tu peux facilement te faire submerger par tous ces sons. Moi, je veux que la guitare reste présente, je veux que le clavier reste présent. La voix a des choses à dire, même si c'est en anglais, mais elle a des choses, des intonations, des sons à... tout est... Alors, même si c'est un jeu qui se fait sur la base d'une programmation, je veux que les choses soient vivantes, qu'il y ait une percu, qu'il y ait un clavier, qu'il y ait une guitare, un chant, et qu'il se passe des choses. Et... Donc ça, plus ça va et plus je l'assume. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, oh, ça pourrait être cool quand même que ça prenne un peu de puissance avec une vraie batterie, un bassiste, que sais-je, qui a un projet de groupe autour de ça. Mais c'est tellement compliqué que ça me paraît tellement compliqué de trouver les bonnes personnes, trouver du temps pour répéter, tout ça. Là,
Et le choix de l'anglais dans tes compos, c'est venu naturellement ou est-ce que c'était une façon de pas dire les choses directement ?
Ouais, le choix de l'anglais à l'origine, c'était une façon plus d'instrumentaliser la voix, de faire en sorte qu'elle soit mêlée aux compositions. comme un instrument à part entière.
Lié à tes influences aussi, certainement.
Ouais.
De quoi tu causes dans tes chansons ?
Je peux parler de nature, je peux parler des rapports humains, je peux raconter des histoires qui sont de l'ordre de l'onirique aussi. C'est un peu la peinture comme la musique, quoi, et comme les textes, c'est des assemblages de mots. Après, c'est
puis mots, d'humeur et d'ambiance sens, aussi, ouais. J'imagine.
Tout selon, est...
Parce que tu composes et après les mots viennent sur ce ouais. que tu ouais. composes, en fait, j'imagine.
Voilà, et du coup, il n'y a pas de
limite. Tu pars pas des textes ?
Non, jamais.
Voilà. Et alors ?
C'est peut-être aussi pour ça que j'écris en anglais, parce qu'après, la musicalité est plus facile à associer avec...
Ouais, pas du tout de français. T'as jamais essayé quoi que ce soit
Je trouvais ça nul, en fait. Si, j'ai essayé, mais... On me dit, si, vas-y, fais des morceaux en français, c'était vachement bien. Non, mais je trouvais ça nul.
Parce que le rapport à la voix aussi n'est pas le même.
Non, pas du tout.
Ça aussi.
Pas du tout. J'ai fait un spectacle avec une compagnie sur la guerre 14, donc... musique, art plastique.
Avec la générale d'imaginaire.
Voilà, musique, art plastique et puis slam. Et évidemment, les textes étaient sons, parce que c'est un spectacle qu'on a envie de faire tourner, mais les textes sont en français. Chanter aussi. Voilà, donc le chant français, c'est pas quelque chose qui me fait peur, mais tu vois, si c'est pas mes textes, limite, je peux m'en sortir, mais ça. Je le fais pas naturellement, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est. Et puis, comme dirait Mark Huygens des Vénus, tu vois, c'est la question, c'est une question qu'on pose pas en Belgique, en fait. C'est pourquoi tu chantes en français, ce mot. Non pas que ce soit comme ça, mais je te dis, c'est vraiment, à la base, pour moi, une question de musicalité.
Oui, voilà,
de
rapport, ça fait partie d'un cheminement.
De rapport à la voix.
Si tu as déjà une pratique de l'écriture, bon, bah, voilà, ça va peut-être venir plus naturellement.
Et puis, tu parles de cheminement, tu vois, c'est ça. Ça m'arrivera peut-être un jour. Tu vois, déjà, ce passage via ce spectacle chanté en français, en partie. J'imagine que dans mon petit cerveau, c'est déjà en train de créer un pont. Mm-hmm. Pas une nécessité, mais juste un pont vers peut-être quelque chose qui va exister un jour.
Ça peut faire éveiller.
Oui, puis la vie, elle est faite pour ça, quoi. Elle est faite d'expériences, de tentatives, d'échecs, de réussites. Et c'est comme ça, en fait, que... Moi, tout ça, ça me sert à me construire, finalement. C'est pas une thérapie, mais c'est... J'ai appris énormément de choses sur moi, en termes de confiance en moi, et donc confiance aux autres, quoi. Enfin, apprendre sur soi, c'est apprendre sur les autres, et être amené à rentrer dans l'échange plus facilement. Et voilà. Du coup, ça t'enrichit. Tous les jours, ça t'enrichit. C'est vraiment deux métiers, deux passions qui sur ce point sont évidemment enrichissantes. Et du coup, j'ai pas envie de faire autre chose, c'est ça qui devient un peu envahissant.
Et en tant que nana, inévitablement je vais te poser la question, est-ce que tu as rencontré des écueils avec ton projet solo dans le milieu de la musique, etc.
Non.
C'est plutôt des petits événements mineurs, des petites choses comme ça, consciemment, auxquelles tu te serais heurtée en tant que nana.
Déjà, en 2009, en fait, l'année où tout a commencé à se mettre en place, j'étais enceinte. J'osais pas le dire, mais à partir d'un moment, ça commençait à se voir. Et notamment, j'ai fait un tremplin à cette époque-là, que j'ai... différentes catégories, 6 catégories, c'était le Music Tour à l'époque. Il a pas été reconduit, il a été reconduit une seconde fois, mais il n'existe plus ce tremplin. Et je pense que ça commençait à se voir, tu sais que j'étais enceinte, mais néanmoins, tu vois, ça j'ai remporté le tremplin, donc ça va, quoi, il n'y a pas eu de ségrégation. Voilà, donc après j'ai pu enregistrer un 5 titres grâce à ce tremplin. Enfin, après, la position de Nana, non.
Par rapport, je pense, au festival non mixte, comme il en a existé sur Rennes, sur Nantes et ailleurs. À l'incontournable, les femmes s'en mêlent. Par rapport à ces coups de projecteur comme ça sur la création féminin, est-ce que pour toi c'est une bonne chose ou au contraire ça stigmatise un petit peu et il serait temps d'arrêter un peu ?
Alors, c'est vrai que... je m'en rends compte toujours après coup, tu te rends compte en fait que... Alors, moi je suis dans le réseau des musiques actuelles, mais pas dans le grand réseau des groupes qui tournent à l'échelle nationale. Moi, ça reste une échelle régionale, voire même, ça peut aller jusqu'en Belgique. Alors attention, c'est déjà loin la Belgique. Mais donc dans ce petit réseau-là, il y a quand même une majorité de groupes essentiellement masculins. Après, t'as des nanas qui sortent du lot, elles ont une putain de présence et un très très grand talent. Tu vois, je pense à Junebug, je pense à la nana qui bosse avec Delby, Sophie Sable. Voilà, donc t'as des nanas qui font vraiment un travail de très très grande qualité. Mais moi, je regarde juste ça, en fait. Je regarde la qualité des boulots. Alors peut-être que c'est plus personnel quand ça vient d'une nana. Je trouve il y a plus de poésie. Alors je suis sensible à ça, évidemment, je suis moins sensible à la guitare, basse, batterie, à Donf. Nantes, enfin, tu vois, après, qu'il y ait un festival qui soit consacré qu'à des groupes ou de nanas, ça m'a jamais choqué. En même temps, il n'y en a pas 40.
Oui, il n'y en aura jamais trop.
Mais ce sera toujours comme ça. Donc forcément, c'est que quelque part, il y a un manque, une lacune. Enfin, tu vois, il y a la journée des femmes aussi.
Ouais, mais qu'est-ce que t'en penses, ça, de la journée
Non, très franchement, je m'en fous, quoi, ceci. J'essaye déjà de faire mon boulot du mieux que je peux. Trouver des dates, c'est pas facile. Donc, je joue pas beaucoup. J'aimerais bien jouer plus. Il y a tellement de questions à te poser autour de ça.
C'était juste pour savoir un petit peu si tu trouvais ça anecdotique ou au contraire nécessaire.
Pour moi, je te dis, c'est anecdotique. Et en même temps, peut-être que tu soulèves une question importante et que je ne me rends pas compte que ça peut être rédhibitoire parfois. Après, pour moi, ce qui est rédhibitoire, effectivement, c'est de fonctionner dans une petite forme. Donc, c'est pas un gros son qui claque.
Tu fais pas de la folk non plus.
Ouais, mais c'est d'être dans un style musical que les gens, je sais pas, tu as l'impression qu'ils n'arrivent pas à définir du coup.
Par rapport au son, ouais. Ouais. Fait que ce soit un projet solo, ça n'a rien à voir. Hein. Enfin, il y a plein de mecs qui tournent solo.
La grosse difficulté que j'ai, c'est de trouver des dates. J'aimerais bien jouer beaucoup. Beaucoup plus que je ne le fais. Souvent, c'est un peu, tu vois, le fait du hasard, comme ici, sur une expo, on apprend que tu fais de la musique. Oh, tu ferais pas un concert? Oui, d'accord.
Mais tu fonctionnes aux propositions actuellement. T'as pas quelqu'un qui s'occupe de ton projet.
Non. Moi, j'arrive pas à le faire seul, c'est évident.
T'es en autoprod total, même, parce que t'as sorti un album quand même.
En 2010, donc ça a commencé à remonter grâce à ce tremplin là que j'ai fait.
Oui, voilà,
en 2009.
Grâce au tremplin.
Après, tout ce que je propose, c'est des démos, tu vois, que je fais moi personnellement.
Et t'as approché des labels
Non, bah ça après, tu vois, je sais pas comment s'opère cette magie-là. Tout ce que je sais, c'est que je commence à vraiment me sentir à l'aise dans ce projet, que sa forme simplifiée, d'après ce que je peux entendre, elle tient la route, d'après les retours que je peux avoir, donc ça te met en confiance. Ça te dit que comme ça, je peux continuer à fonctionner et continuer à démarcher. Mais je pense que ce qui me colonise, ouais, c'est le fait d'avoir tout à gérer toute seule. Quoi. La communication, déjà, c'est... je pense que c'est déjà ce qui me prend le plus de temps pour un retour, tu vois, très minime. Mais c'est... la création, elle passe après. La communication, limite, tu vois, c'est déjà dur d'avoir à dire ça. Et puis après, le démarchage, les dates, c'est très 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 loin. Et puis ça, c'est un gros boulot, c'est un boulot à part, c'est un vrai métier.
C'est sûr.
Et ça, j'arrive pas à l'assurer. J'arrive pas du tout à l'assurer.
Et t'en es où au niveau collaboration? Parce que ça t'arrive aussi de collaborer avec d'autres personnes?
Oui, ça j'aime bien. Ben, c'est souvent sur des coups de cœur. Alors ça met très longtemps à se mettre en place. Mais il y a eu un... Ouais, on a partagé un morceau avec Julian Angel, qui est de Lille. Là, j'avais envie de travailler aussi. Ça va se faire, hein. Si c'est pas cette année, ce sera dans 3 ans. Mais avec l'ancien chanteur de la Pax, Sven. J'aimerais bien faire quelque chose avec lui aussi, parce que je pense qu'on est sur un terrain harmonique, où il y a des possibilités. J'avais bossé, c'est pareil, on a fait deux morceaux avec un groupe qui s'appelle Caro, qui sont de Douai, mais on ne les a jamais sortis. Ils sont tellement pointilleux, pointillistes, que finalement, c'est un truc qu'on a laissé de côté, qu'on n'a jamais fini. Et puis, il faudrait peut-être tout refaire aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'aime bien partager des choses avec d'autres personnes. Puis même ce boulot qu'on a fait avec la CGI, c'était super intéressant de bosser avec un musicien et avec un slammer. C'est, euh,
C'était qui le slameur?
Camille Faucher et Grégoire Terrier pour la musique. On a créé les arrangements avec Grégoire et Camille est venue poser sa voix et ses textes.